Bienvenue dans Radiopium, votre dose d'opium philosophique. Vous nous écoutez sur Radio Campus Paris, sur le 93.9 FM.
L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
Cet amour-passion est effectivement un amour qui souffre.
Savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir.
Bienvenue dans Radiopium, votre émission de philosophie. Et c'est moi-même, Lila, qui est à la présentation aujourd'hui. Alors, la philosophie, qu'est-ce que c'est que la philosophie ? On ne pouvait pas se permettre de faire une émission de philosophie sans se poser la question. Et oui, désolé, le naturel revient au galop, on se pose des questions, nous autres philosophes. Effectivement, en quoi consiste le fait de philosopher ? Quand y a-t-il philosophie ? On ne prétend pas ici détenir la réponse, hein, unique et catégorique, mais on va quand même essayer d'explorer cette question dans cette première émission de Radiopium. Alors nous avons tous en tête des noms de philosophes, mais savons-nous quelle fut leur démarche ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit à eux-mêmes ? Est-ce qu'ils se sont dit « je vais faire de la philosophie » ou n'ont-ils pas simplement voulu penser un phénomène, résoudre un problème, élucider un mystère, dissoudre une contradiction, mettre fin à une préoccupation ? Que dis-je ? Une angoisse. Est-ce qu'on fait de la philosophie de la même manière à toutes les époques ? Non, bien sûr. Aussi, toute tentative de définition, on le voit, semble immédiatement guettée par la menace du relativisme. La philosophie prend un sens relatif à une période, un courant, un auteur. Dès lors, est-ce qu'on est autorisé à parler de la philosophie ? Ou ne faudrait-il pas plus justement parler de philosophie au pluriel ? La philosophie doit-elle être définie par nature ou par degré ? Autrement dit, est-il possible de caractériser la philosophie en général, d'en donner un concept ? Ou bien la philosophie doit-elle être définie par degré ? Auquel cas, il y aurait des discours, des théories plus ou moins philosophiques. Les théories les moins philosophiques, simple. Ce seraient celles qui se contenteraient d'affirmer une thèse, d'être dogmatiques, sans appuyer leurs idées par des arguments. Les théories moyennement philosophiques, ce seraient celles qui se contenterait d'arguments, mais d'arguments vraiment faibles. Et alors enfin, les théories très très philosophiques, ce seraient celles qui affirmeraient des thèses très sérieuses, appuyées par des arguments, justifiées, vérifiées. Mais au fond, est-ce qu'on peut vraiment être exact dans la détermination des concepts au point que la philosophie soit une science ? Ou bien la philosophie n'est-elle qu'affaire d'interprétation subjective du monde, toujours sous la menace du scepticisme ? Ce qui conduit à se demander, la philosophie doit-elle être considérée comme une science ou non ? Peut-être comme une science humaine, aux côtés de la psychologie, de la sociologie, de l'économie. Et si elle se mêle aux autres sciences humaines dans une logique de transdisciplinarité, touchant à tous les sujets, la philosophie ne nie-t-elle pas par là même sa propre existence ? Au fond, la philo, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas ? Oui, je pose une question radicale. Est-ce qu'on est réduit finalement à définir la philosophie par sa source, sa provenance ? Est-ce qu'on peut dire qu'est philosophie ce qui est produit par un philosophe ? Oui, c'est pas très satisfaisant comme définition, mais on va commencer par là. Alors, on va commencer en se demandant, justement, en général, quand on pense à la philosophie, on pense à ceux qui l'exercent, aux philosophes. Et dans l'imaginaire collectif, eh bien, le philosophe, c'est plutôt une figure atypique.
Je pense qu'il y a le philosophe tel qu'on le voit, qui pourrait être quelqu'un qui réfléchit tout le temps et qui est très âgé et enfermé dans son bureau à écrire toute la journée. Ou alors le philosophe, c'est un peu le quelqu'un de sociable, d'actif, qui aide les autres et qui, qui a une grande ouverture d'esprit en fait. Donc il y a un peu deux images voilà, opposées.
He kind of thinks about, is trying to sort of make sense of the world and experiences and how to live.
Un philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit dès le matin, qui se pose les bonnes questions, qui rentre pas dans l'action de manière démesurée. Et qui réfléchit, qui a beaucoup de livres chez lui et qu'on aime venir voir pour avoir des bons avis.
Et donc nous venons d'entendre des avis recueillis au Jardin du Luxembourg à Paris par l'équipe de Radio Pium. On est allé demander aux gens qu'est-ce que ça évoquait pour eux la philosophie et si on leur disait philosophe, qu'est-ce que ça convoquait comme image pour eux de façon immédiate. Et on voit que bah, voilà, c'est plutôt une figure atypique à laquelle on associe la sagesse, la mesure, la réflexion, la vieillesse, la spiritualité. Et tout de suite, Tibor va nous raconter la philosophie à travers ces figures justement qui l'ont fait au cours de l'histoire.
Et oui, Lila, c'est un Thalès de Milet qui a trop contemplé le ciel, tombe dans un puits. Un Pythagore de Samos qui interdit à ses successeurs de manger des haricots. Un Socrate interpellant les gens dans la rue pour les harceler de questions ennuyeuses et dérangeantes. Un drôle de Cratyl qui pense qu'il ne faut rien dire et qui se contente de bouger le doigt pour communiquer. Un Platon, rejetant le corps et affirmant que celui-ci est une prison pour l'âme, cette dernière devant s'appliquer à regarder un au-delà bien mystérieux, rempli d'entités immatérielles et immuables. Un cynique Diogène qui vit dans la rue comme un chien, a pour domicile une jarre et n'hésite pas à insulter autrui. Un Montaigne qui inscrit sur les poutres de sa bibliothèque des sentences d'anciens penseurs en grec et en latin. Un Kant au rythme très, trop, excessivement régulier et dont il est dit qu'on pouvait l'apercevoir tous les jours, au même endroit et exactement à la même heure dans le cadre de sa promenade quotidienne. Un controversé Ernst Jünger, mort à 102 ans, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'ivresse, ivresse de la boisson comme de la drogue, hashish, cocaïne, LSD, opium. Un Sartre qui, en 1943, publie l'être le néant, vantant la nécessaire liberté de l'humain, alors que le régime de Vichy s'emploie à dérober la vie d'un très grand nombre de personnes. Un Schopenhauer qui aime beaucoup les caniches, au point de prendre des dispositions testamentaires pour son propre chien. Un Nietzsche qui, un beau jour de 1889, dans les rues de Turin, perd subitement et complètement le contrôle de ses facultés mentales. Un Walter Benjamin qui range ses notes dans une drôle de serviette qu'il amène toujours avec lui. Un Wittgenstein, peu sociable, voire misanthrope, qui n'hésite pas à frapper violemment un de ses élèves pour venir s'excuser 10 années plus tard. Ou qui sort un brûlant tisonnier du feu pour menacer Karl Popper alors qu'il s'était disputé sur la question de savoir s'il existe vraiment des problèmes philosophiques. Un Kurt Gödel paranoïaque, mort de faim, pour avoir cru que quelqu'un avait empoisonné sa nourriture. Vous l'avez compris, ce n'est pas pour rien que le philosophe peut avoir cette image d'un personnage atypique, tant par ses idées et son caractère que par son comportement et son mode de vie. Désormais, je voudrais m'arrêter sur un point précis. J'espère que vous l'aurez remarqué dans mon énumération de faits contribuant à l'image d'un philosophe atypique, ne sont présents que des hommes philosophes. La philosophie n'étant bien évidemment pas à l'usage exclusif des hommes, pourquoi donc n'avoir mis que des hommes ? La raison en est, et cela est bien problématique, que lorsque j'ai recherché des faits particulièrement étonnants, surprenants, amusants, étranges sur les philosophes, ces faits ne concernaient à chaque fois que les hommes. Pour aller à l'encontre de cette surreprésentation masculine, qui se manifeste également et plus largement dans la philosophie en général, dans une certaine histoire qui a été élaborée de la philosophie et dans laquelle on retient, en tant qu'individu important, beaucoup trop d'hommes et trop peu de femmes et autres minorités, je vous propose un petit jeu. Auditrices et auditeurs, allez chercher des fun facts, des faits amusants à propos de philosophes, de préférence connus, femmes, et même de philosophes qui ne se définissent pas du tout ou exclusivement comme étant hommes. Quand vous trouvez, envoyez-nous un email à l'adresse suivante opium.radioopium@gmail.com contenant votre prénom et le fait en question, avec sa source si possible. Pour la prochaine émission, nous sélectionnerons, s'il y en a, certains de ces faits et nous les partagerons à l'antenne. Bonne chance.
Merci beaucoup Tibor pour ce jeu auquel on s'est prêté. Nous, on allait regarder un petit peu ce qu'il y avait dans la culture populaire qui parlait de musique. Et comment ne pas penser à Amel Bent et sa philosophie, bien sûr.
Être acceptée comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le poing levé, lever la tête, bomber le torse. Sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi, malgré nos peines, nos différences. Toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing. Encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs. Ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'y ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir, lever la tête, lever le torse. Sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
La philosophie est partout dans nos vies et Amel Bent dit avoir une philosophie. Mais avoir une philosophie, est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment philosophe? Et puis en fait, c'est quoi une philosophie de vie, après tout? Et puis la philosophie existe-t-elle même? Si chacun en a une, dire avoir une philosophie, on utilise ici l'article indéfini, donc c'est une philosophie parmi d'autres, mais au fond, qu'est-ce que ça dit, peut-être, de ce qu'est la philosophie, cette question? Et je laisse la parole à Marianne, qui a son idée sur le sujet.
Manger 5 fruits et légumes par jour, fumer la vie avant qu'elle nous fume, ou écouter une fois par jour le single « Ma philosophie » d'Amel Bent, ce type d'action banale régissant la manière dont chacun vit sa vie pourrait bien s'avérer philosophique. Et si la manière dont on philosophe était directement liée à l'expérience que l'on fait de la vie, conformément à une époque, une société? L'expression philosophie de vie, tant employée dans notre langage commun, prendrait alors tout son sens. Je vous l'accorde, à première vue, considérer que la philosophie puisse se conformer aux habitudes qui nous sont propres semble absurde. Cependant, apprécier sa tasse de café matinale, sans pour autant s'en servir une deuxième, pourrait bien s'inscrire dans un mode de vie épicurien à certains égards. La vraie question qui nous brûle les lèvres, c'est alors, est-ce que la manière dont une personne se donne des principes et mantras est elle-même philosophique? Et donc, peut-on revenir à une définition personnelle et subjective de la philosophie? En un sens, la philosophie serait partout et nulle part à la fois. Elle se détacherait de grands concepts généraux, de l'universel présent en chacun de nous, et reviendrait au subjectif pur, qui se trouve dans l'expérience singulière. Et figurez-vous que l'inscription de la pratique philosophique dans l'expérience réelle pourrait même s'avérer constitutive de la discipline en elle-même. Il y a alors d'autres interrogations qui me viennent en tête. On a pu constater ces dernières années l'apparition du développement personnel, qui nous prodigue un panel de philosophies de vie conformes à notre société contemporaine. Mais du coup, est-ce que l'on n'assisterait pas ici à un détournement du sens propre du concept de philosophie ? Ou cette nouvelle vague représente-t-elle une redéfinition, plutôt positive, de la philo ? C'est là que je me suis dit que c'était intéressant de réfléchir au sujet de cette fameuse philosophie de vie que chacun essaie de prôner et qui lui est propre. J'ai voulu en faire un véritable objet d'étude, car il m'a semblé que la notion de philosophie de vie regorgeait de clés permettant de comprendre le monde qui nous entoure. J'ai trouvé qu'elle pouvait aussi révéler la manière dont la majorité d'entre nous abordait la notion de philosophie. La philosophie est souvent considérée comme un monde idéal, enfin le monde des idées quoi, surplombant celui simplement réel, et on pourrait penser alors qu'elle ne peut pas s'inspirer de la vie en elle-même. Mais j'ai envie de vous dire que les présupposés ne demandent jamais qu'à être critiqués et dépassés. Du coup, est-ce qu'Amel Bent visait juste lorsqu'elle disait chanter sa philosophie ? Chacun n'aurait-il alors qu'une philosophie ? Bah ouais, celle d'être accepté comme je suis, nous dirait-elle. Il serait aussi intéressant de savoir si l'apprentissage de la réflexion philosophique pourrait être le moyen pour nous de retrouver notre propre philosophie. Dès lors, cette conception viendrait remettre en question l'unité même du concept de philosophie en tant que simple domaine d'études académiques, en le rendant pluridimensionnel. La notion de philosophie de vie, comme vous avez pu le comprendre, regorge donc de pistes de réflexion que je vais tenter d'explorer avec vous, en retraçant un peu son histoire et évolution. Et donc je vais d'abord vous parler de la vie des anciens, des antiques, donc dans l'Antiquité, qui était a priori régie par une philosophie commune. Enfin, on a l'impression en tout cas que les philosophes de l'époque essayaient vraiment de prodiguer des doctrines qui permettaient à l'homme de vivre sa vie selon des mantras et des principes généraux. Et donc pendant l'Antiquité, la réflexion philosophique est majoritairement portée sur la vie et a une visée explicative. La philosophie se fonde sur le réel et vise tout à la fois à le contrôler. L'instabilité du réel et de la nature humaine sont notamment les fondements des philosophies antiques, épicuriennes et stoïciennes. À cette époque, on philosophe d'abord pour comprendre le réel, en l'expliquant par des principes généraux. On veut par là se le réapproprier et ne plus être soumis à son imprévisibilité. On qualifie donc les pensées épicuriennes ou encore stoïciennes de doctrines. Pour mieux en comprendre les fondements et objectifs, on va du coup définir ensemble cette notion. Donc une doctrine, ça peut être défini comme un ensemble de croyances qui traduit une conception de l'univers, de la société, qui constitue un système d'enseignement, ici philosophique, et qui s'accompagne souvent de la formulation de règles de conduite. Et donc, en plus, ces croyances, elles peuvent être portées soit par un individu, soit par un groupe d'individus. Et on comprend qu'une doctrine, si elle se veut générale, elle reste quand même subjective, car elle repose sur des croyances qui sont théoriquement opposées aux connaissances qui sont objectives. Et elle peut donc être propre à chacun ou à un groupe d'individus. En plus, on comprend que la doctrine philosophique se fonde souvent sur des idées qui se veulent universelles, car applicables à une nature de l'homme qui est générale. On a affaire ici à la conviction de l'existence de quelque chose de commun à tous les hommes, d'où le nom de l'ouvrage du philosophe épicurien Lucrèce, de la nature. Non, ce n'est pas le slogan d'une pub quechua. Et donc là, en fait, ce titre nous dit surtout qu'il va faire une analyse, que Lucrèce va nous faire une analyse généralisante, finalement, de la nature qui l'entoure, en tentant de comprendre les principes qui la constituent et les conséquences que ces principes engendrent. On a en effet l'exemple donc, de l'épicurisme, à partir duquel on peut... Donc, auquel on peut s'intéresser. Et donc dans le De Natura Rerum, de la nature, de Lucrèce, on voit une retranscription de la pensée épicurienne que l'on qualifie dès lors de doctrine de vie. Et donc l'épicurisme, comme il nous l'explique, c'est d'abord rechercher la satisfaction de ses désirs naturels et nécessaires en opposition à ceux qui sont naturels et non nécessaires, afin de ne plus être esclave de sa condition qui est proprement humaine. Et donc Épicure pense que les hommes, chacun de leur côté, doivent suivre cette doctrine générale concernant leur nature commune, et cette nature est certes bonne, mais aussi faillible. Ce mode de fonctionnement est le seul moyen d'atteindre ce qu'il appelle l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Et donc après on a le stoïcisme, qui est une doctrine qui elle aussi vise à atteindre l'ataraxie, mais d'une manière opposée aux méthodes épicuriennes. Et donc pour les stoïciens, le seul bien c'est l'intention morale, car vertueuse. L'intention morale est vertueuse. Car c'est elle, en fait, qui permet aux hommes, si elle est suivie, d'être au service de la communauté humaine. Et donc la doctrine stoïcienne est avant tout une philosophie visant à régir la vie de chaque homme pour permettre à leur communauté de vivre en paix. En suivant cette philosophie de vie, les hommes se dévouent leur vie à un objectif commun, plus grand qu'eux-mêmes, C'est-à-dire, on peut dire que c'est un objectif transcendant, et donc on a un peu l'impression que c'est une religion philosophique, quoi. Donc l'idée, finalement, d'une identité qui appartient à chaque personne semble, ici, inexistante dans ces modèles de pensée. En fait, on cherche d'abord à définir l'homme à travers des doctrines générales pour pouvoir donner une direction à la manière dont il devrait vivre sa vie. On cherche une philosophie de vie générale valable pour tous. Et on ne s'attarde pas vraiment sur la singularité et la complexité d'une personne précise. En fait, ça n'existe pas vraiment. Et en réalité, c'est assez cohérent quand on sait que les sociétés antiques étaient holistes, c'est-à-dire que la société, la communauté avait l'ascendant sur l'individu, qui devait justement se conformer à la généralité.
Oui, en fait, la notion d'individu n'existait pas du tout à cette époque.
C'est ça. En fait, c'est apparu bien plus tard, alors qu'aujourd'hui, c'est une notion qui nous paraît essentielle, on peut le dire. Du coup, on peut se demander si ces doctrines générales qui visent à régir des vies particulières ne sont pas nécessairement lacunaires. En tout cas, elles nous apparaissent comme telles. Aujourd'hui, ça paraît assez impersonnel, en fait, de vivre notre vie selon des principes pensés par d'autres personnes que nous-mêmes. L'oubli des caractéristiques individuelles dans ces philosophies antiques pourrait d'ailleurs avoir préfiguré l'apparition de philosophies centrées sur la personne. Si on se penche sur l'histoire des sociétés occidentales, on voit que l'on arrive finalement à une société qui devient individualiste à partir du XIIe siècle. Et donc ça veut dire qu'elle est d'abord centrée désormais sur l'individu singulier plutôt que sur la communauté. Et on peut établir un parallèle avec l'évolution de la philosophie à l'époque. C'est peut-être ce tournant en fait individualiste de la société qui a initié le dépassement de ces doctrines antiques. Et du coup, paradoxalement, on peut se demander si ces doctrines antiques n'ont pas elles-mêmes préfiguré la redéfinition individualiste des philosophies de vie. Parce que mal interprété, par exemple, l'épicurisme devient une injonction à la jouissance personnelle absolue et totale et prend donc une dimension individualiste. Et donc c'est intéressant de voir que quelques siècles après le début de l'émergence de la société individualiste, eh bien on a l'apparition d'un individualisme qui vraiment devient le ciment des sociétés occidentales. Enfin, désormais, c'est pas seulement une valeur qui vient d'émerger, c'est vraiment le ciment de la société. Et c'est pour ça que ça se traduit à travers la philosophie. Ouais.
Ouais, et en fait, c'est même le ciment aussi de la recherche scientifique. En fait, on va découvrir les principes à partir de la recherche
totalement
scientifique. Ouais,
et donc ouais, finalement, on voit que ça contamine en fait tous les domaines. Et donc bien sûr, la philosophie n'est pas épargnée.
Évidemment.
C'est évident.
Et c'est là que Descartes intervient.
Et apparaît. Il surgit de nulle part et il renverse tout, en fait. Voilà, il renverse tout. Parce qu'en fait, il pense découvrir qu'on a un moi propre, qui est propre à chacun, en fait. Un ego dont nous seuls, pouvons prouver l'existence. Et donc dans les méditations métaphysiques, cet ego devient le fondement même de toute connaissance. Et cette conception interroge, n'est-ce pas, Lila ?
Bien sûr, Marianne. Je m'interroge avec toi.
J'espère que vous aussi vous vous interrogez d'ailleurs. Et donc on s'interroge et on se dit, mais fonder n'importe quelle connaissance objective sur un critère purement subjectif, c'est-à-dire en fait l'esprit, notre esprit personnel, c'est peut-être déplacer le centre de gravité de toute chose existante. Du coup, au lieu de partir du général, du commun, on part du singulier, du personnel, et c'est en cela déjà qu'il y a un changement de perspective comparé aux doctrines antiques. Surtout que Descartes, après avoir médité au coin du feu avec une pipe à la bouche, bon, là c'est moi qui spécule, nous dit qu'il ne peut avoir qu'une seule certitude. C'est pas beaucoup. Il dit « je pense, donc je suis ».
Il réalise une certitude.
Ouais, une certitude. Et sacrée certitude. Parce que, bon, c'est vrai. T'es certaine, toi, que, que tu penses ? J'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc,
ouais, donc on peut être après sûr d'exister.
Il avait peut-être raison là-dessus.
D'être.
Après, est-ce que c'est la seule certitude ? C'est la vraie question, finalement. Mais du coup, en tout cas, lui, il pense que c'est la seule qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, il réalise qu'on peut douter d'absolument tout ce qui constitue notre réalité. Il appelle cela le doute hyperbolique. Et donc la seule chose dont on peut être sûr finalement, c'est que l'on doute d'absolument tout. Et c'est comme ça, selon Descartes, que l'on a la preuve qu'il existe au moins, que l'on existe au moins, en tant que chose pensante. Et donc là, en fait, Descartes, il est catégorique. Pour lui, n'importe quelle pensée, n'importe quelle action est fondée seulement sur l'existence de notre moi individuel. Et du coup, la pensée philosophique est elle aussi devenue individuelle et personnelle. Et là, on a l'idée, en fait, on voit que l'idée défendue par les philosophes antiques, qu'il existe une nature humaine commune, peut-elle aussi être révoquée en doute. Descartes affirme quelque chose de fort ici. Il dit que l'ego, notre esprit est un principe qui fonde toutes les autres connaissances. En fait, ici, on établit la supériorité de la connaissance individuelle sur celle commune, donc partagée avec les autres. Mais alors, si notre propre fondement en matière de connaissance, eh bien, c'est notre ego, pourquoi on ne serait pas nous-mêmes aussi notre propre fondement en matière de philosophie de vie ? Si on ne peut se fier qu'à notre perception du monde, car tout ce qui constitue le monde extérieur peut être révoqué en doute, comment peut-on choisir de suivre des principes qui ne sont eux-mêmes extérieurs ? On se résout du coup forcément à adopter une philosophie de vie personnelle fondée sur l'ego individuel et ses propres besoins. Et là, boum ! En fait, c'est comme si Descartes avait installé de la dynamite dans les édifices philosophiques antiques pour faire voler en éclats toutes les doctrines philosophiques et leurs mantras imbriqués les uns dans les autres. Chacun de ces états peuvent alors devenir à eux seuls des philosophies de vie. Plus besoin de les rattacher à un grand ensemble philosophique. Chacun prend ce qu'il veut dans ses décombres et il laisse le reste aux autres. Il peut même inventer de nouveaux mantras. Parce que si on considère que la validité de la réflexion philosophique est seulement fondée sur l'existence de notre esprit, alors on est le seul qui peut produire des principes de vie qui sont vrais. On accorde une valeur supérieure à nos états intérieurs. Et vu comme ça, il est facile de penser que l'on est les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. En fait, on est forcément le styliste de nos principes, et donc de notre propre philosophie de vie.
Waouh !
Et ouais, assez impressionnant. Mais du coup, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, quel égocentrique ce Descartes ! Eh bien, vous avez raison, il se centre avant tout sur l'ego. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart des philosophes après lui ont suivi son exemple. Sa manière de penser a en effet induit un tournant égologique dans la philosophie, c'est-à-dire qu'il conduit la démarche philosophique à vraiment s'intéresser à l'ego. Ce tournant égologique modifie la pensée philosophique parce qu'il donne une légitimité totale à la pensée individualiste. Cela permet de créer une nouvelle réflexion autour de la personne et de l'individuel qui est inédite dans la philo, quand même. Il faut le noter.
Tu tiens à le souligner.
Je tiens à le souligner, quand même. On va pas trop descendre Descartes non plus. Et c'est pour ça qu'on va se pencher sur la théorie de l'existentialisme défendue par Sartre qui semble s'inscrire dans la continuité du tournant égologique.
Donc toi, tu vois une continuité entre Descartes et Sartre.
Ouais, finalement, j'ai l'impression que Descartes a tellement marqué une rupture en fait dans la philosophie qu'il y a beaucoup de philosophes ensuite qui se sont appuyés sur justement cette importance de l'ego et ce fondement égologique, finalement. Et moi, j'ai l'impression que Sartre, lui, il pousse le vice, si on peut dire, encore plus loin. Je ne sais pas si c'est un vice, mais en tout cas, l'idée, il l'explore plus profondément. Et donc, ça arrive plus tard, ça arrive au XXe siècle. Et c'est à ce moment-là, il s'enfonce encore plus dans un axe de pensée individualiste. Et finalement, sa pensée se fonde sur l'idée que l'homme naît libre et que cette liberté est propre à sa condition. Et c'est pour ça que Sartre dit que l'existence précède l'essence. En fait, il entend par là que l'homme vient d'abord au monde et donc existe, et que c'est seulement par la suite qu'il définit et construit son essence. C'est-à-dire que ce qui le constitue profondément, il va pouvoir le créer et le modeler à sa manière au fur et à mesure de sa vie, en fait. Du coup, il est contraint de faire des choix toute sa vie qui détermine qui il est, et en fait, même le fait de ne pas choisir sera un choix. Mmh. Et puisque Sartre affirme que l'enfer c'est les autres, parce qu'ils sont les seuls freins à des choix qui expriment notre volonté profonde, on pourrait penser en effet que le seul moyen de s'épanouir dans notre vie, c'est de ne pas se fier à ce que les autres font de la leur. Et selon ces idées, apparaissent vraiment en fait comme des idées individualistes.
Ouais.
Quand on se penche dessus.
Avec la différence que pour Sartre, on n'est pas une chose pensante.
C'est ça. Pour lui, on est un petit peu plus que ça, quand même.
Ouais.
On est des êtres à part entière et on est fondamentalement libre. Ce qui peut paraître plutôt positif, mais qui, du coup, induit une vraie responsabilité.
Mmh.
Et c'est bien ce qu'il dit, en fait. La personne est la seule qui est profondément responsable de la manière dont sa vie se dessine. Du coup, elle est bien le seul fondement de sa philosophie de vie. Chacun peut produire et adopter la doctrine qu'il souhaite. Il est forcément le seul maître, en fait, et créateur de sa philosophie de vie. Du coup, la notion de philosophie de vie est ici teintée d'individualisme, puisque l'homme ne peut et ne doit se conformer qu'à ses propres principes moraux, éthiques et autres. Et donc cette logique individualiste, qui est un des éléments constitutifs de nos sociétés actuelles, semble avoir ici vraiment déteint sur la manière dont on philosophe. Et cela peut avoir un impact sur la manière dont on vit nos vies. En fait, l'objectif de la réflexion philosophique semble avoir changé dans l'esprit de la plupart des gens. Est-ce que désormais on n'attend pas que la philosophie nous fournisse des clés pour s'interpréter personnellement plutôt que des concepts généraux ? Cela pourrait expliquer le détournement des doctrines antiques comme l'épicurisme vers un objectif plus individualiste. Et donc, parce qu'on cherche maintenant en la philosophie un fondement, finalement, on cherche en la philosophie un fondement et une ligne conductrice permettant d'expliquer et de guider certaines de nos actions, certains choix et mantras qui nous sont propres. Et donc, désormais, on encourage souvent chacun et chacune à trouver sa propre philosophie de vie, à se révéler à soi-même et à rester fidèle à son moi authentique, s'inscrivant ainsi dans une logique de réflexion individuelle et donc individualiste. Et l'émergence du développement personnel, qui est assez récente, et son grand succès, en sont les témoins même. Les coachs en séduction sur TikTok, on parle de vous là. Mais du coup, cette conception, elle interroge. Enfin, en tout cas, moi, elle m'interroge. Est-ce que la notion de philosophie ne serait pas appauvrie, vidée de son sens propre ? Et ce développement personnel fournit-il vraiment les clés pour suivre une philosophie de vie ? Ou engage-t-il plutôt les gens à faire défaut à certains principes moraux, culturels et éthiques qui devraient rester communs ?
Ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour ceux qui veulent approfondir la philosophie de vie chez les antiques. Je recommande l'ouvrage de Pierre Hadot, Exercice spirituel. Merci beaucoup Marianne pour cette traversée historique dans la philosophie qui nous amène à voir un peu les origines de la philosophie de vie actuelle qui s'écarte quand même pas mal de la philosophie en ce qu'elle est quand même justement une attitude critique vis-à-vis des injonctions au bonheur et autres. Alors... ça nous amène à un constat un peu sur l'état de la philosophie aujourd'hui, puisque on peut observer quand même un double mouvement aujourd'hui. À la fois le désintéressement du grand public à l'égard de la philosophie, et puis l'élévation de la philosophie au rang des savoirs les plus hauts et les plus inaccessibles. On t'écoute, Gabrielle.
Et oui, ma chère Lila, la situation est grave, la situation est bien grave. Et à bien y regarder, quand on réfléchit à l'état de la philosophie, moi ça me rappelle cette description de la seigneurie d'Orsena au début du Rivage des Sirtes de Julien Gracq. On peut y lire que la seigneurie d'Orsena est semblable à une personne très vieille et très noble qui s'est retirée du monde et que malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assure encore contre les affronts de ses créanciers. Son activité faible mais paisible encore est comme majestueuse et celle d'un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule sur le progrès continu en lui de la mort. Et du coup, le truc c'est qu'on peut être tenté de filer la métaphore entre cette majestueuse seigneurie d'Orsena qui vivote mollement à l'ombre d'une gloire passée et l'état de la philosophie aujourd'hui. Et sans doute n'est-ce pas de manquer de respect à la philosophie que de diagnostiquer une petite baisse de morale. Alors oui, on peut se rassurer et observer qu'on qualifie encore la philosophie de discipline reine, que c'est par l'épreuve de philosophie qu'était inaugurée chaque été la session du baccalauréat en France. Philosophie qui, d'ailleurs, est l'une des seules disciplines enseignées tant en filière générale que technologique au lycée. L'UNESCO, dans un rapport de 2007 qui établit un état des lieux de l'enseignement de la philosophie, révèle ainsi que plus de la moitié des élèves du secondaire à travers le monde ont reçu un enseignement spécifiquement consacré à la philosophie. Néanmoins, et surtout quand on est attaché à l'enseignement de la philosophie et à son rôle, il convient de ne pas nier la réalité et de constater que l'état de la philosophie semble quelque peu amoindri. En effet, si l'on remonte à l'aube de la philosophie occidentale, dans la Grèce du VIe siècle avant Jésus-Christ, la démarche philosophique de ceux qu'on a qualifiés de pré-socratiques est indissociable d'une plus vaste enquête sur la nature, le monde ou encore la vérité. Que ce soit chez Parménide, Héraclite ou Anaxagore, la philosophie naît à ce moment où apparaît l'intuition que penser l'être, c'est en même temps penser le principe de ce qui fait être. En ce sens, la naissance de la philosophie se confond avec celle des autres sciences, de la physique aux mathématiques, sans oublier l'épistémologie, l'astrologie ou la théologie. Cette image du philosophe comme d'un savant universel se prolonge dans la Grèce antique, de sorte que les figures centrales de la philosophie antique, que ce soit Platon ou Aristote, ont construit une œuvre qui porte tant sur la métaphysique ou l'éthique, donc a priori sur la philosophie, que sur la biologie, la physique ou la logique. Mais chemin faisant, et avec beaucoup de raccourcis historiques, la philosophie semble avoir perdu quelques plumes. Si aujourd'hui, la réflexion philosophique n'est pas absente dans la conduite des sciences dites dures, on la cantonne la plupart du temps dans un rôle épistémologique d'enquête sur les causes et le fondement de la validité d'une démarche scientifique, ou à l'autre extrémité, sur les conséquences éthiques de telle ou telle avancée scientifique. Plus encore, on assiste en quelque sorte à un démembrement de la philosophie avec l'apparition des sciences sociales au XIXe siècle. À bien des égards, l'émergence et l'affirmation des sciences comme la psychologie, la linguistique, la sociologie, mais aussi l'anthropologie ou les sciences cognitives bouleversent l'unicité et la cohérence de ce qu'on considérait relever du questionnement philosophique. Dès lors, on peut aller jusqu'à se demander si la philosophie ne survit plus que dans un rôle de substrat logique d'une démarche scientifique ou comme une tradition éclairante, et si, au fond, il est encore bien intéressant de se pencher sur l'étude de la philosophie pour elle-même. Il est d'ailleurs frappant de constater que la philosophie s'est saisie elle-même du problème, voire s'est administrée son propre poison, et que de nombreux philosophes ont traité de la question de la fin ou de la mort de la philosophie.
Tu viens d'évoquer l'évolution de la philosophie dans son rapport aux sciences pour montrer que la philosophie est réduite à être de la logique, au fond, qui nous apprendrait à penser. Qu'en est-il des relations entre la philosophie et les discours d'éthique personnelle ? Je crois qu'on observe aujourd'hui un vif intérêt actuel, et Marianne l'a très bien analysé, pour le développement personnel, et que celui-ci vient reconfigurer la place de la philosophie dans les sociétés contemporaines. Alors, à rebours de cette tendance, j'ai l'impression que toi, tu penses, Gabriel, que la philosophie, en ce qu'elle est la discipline de la rigueur conceptuelle, elle est toujours aussi cruciale aujourd'hui pour interroger tout type de discours, scientifiques, politiques, moraux, les philosophies de vie, et voilà, même le développement personnel. Effectivement, quoi de plus efficace que la philosophie pour démonter ce qui se donne comme un manuel de vie ou comme peu importe, puisque la philosophie, encore une fois, loin de prétendre détenir des réponses, pose les bonnes questions, celles qui nous aident vraiment à y voir plus clair.
Oui, mais c'est pas si évident, parce qu'en fait on assiste en même temps à une extension du domaine du pragmatisme, qui veut que chaque savoir ait une utilité, et d'autre part, on constate que voilà, la philosophie est considérée comme laborieuse, obscure, spécieuse peut-être. Et au final, est-ce que vraiment toute la philosophie vaut plus d'une heure de peine ? Pourtant, si l'on considère avec Kant que la philosophie, en gros, hein, ça se ramène à plusieurs questions. Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Que m'est-il permis d'espérer ? Ou qu'est-ce que l'homme ? Force est de constater que ces réflexions, parfois ces angoisses, elles n'ont pas disparu. Mais dans le même temps, peut-être que pour beaucoup, en effet, comme tu le dis, la philosophie, c'est pas la voie privilégiée pour répondre à ces questions, pour trouver peut-être une forme de consolation. Et sans partir en croisade contre les ouvrages de développement personnel et les formations de coach de vie, de thérapeute ou autre, force est de constater qu'il s'agit là, a priori, d'une concurrence féroce pour la philosophie auprès du grand public. Or, comme le suggère le philosophe suisse Jean Romain, il y a dans le développement personnel une forme de dérive émotionnelle. C'est-à-dire une attitude qui, sous prétexte de nous rassurer sur nos croyances, de nous inspirer par des formules plus ou moins bien tournées, ou de nous offrir le frisson d'exotisme d'un assemblage de spiritualité bariolée, en fait, elle ne nous offre qu'une illusion de vérité. Aussi, passé la phase de découverte, le développement personnel semble bien insatisfaisant, puisqu'il ne se saisit pas du problème de la vérité, et que l'hypothétique consolation qu'il apporte n'est en somme qu'une variation de l'opium fourni par la religion. Et sans doute, est-ce là que la philosophie a son mot à dire, et qu'elle ne doit pas être captive de sa tour d'ivoire ? C'est bien précisément parce que les questions qui saisissent tout à chacun sont légitimes et essentielles qu'il convient de s'y confronter réellement et sans verser dans la facilité du prêt-à-penser. C'est en cela que Gilles Deleuze écrivait que la philosophie, que le philosophe est l'ami du concept. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas simplement l'art de former ou de jouer avec les concepts, mais bien plus rigoureusement de créer des concepts, d'explorer la limite d'assertions paradoxales, de remettre en cause les certitudes qui semblent aller de soi.
Merci beaucoup, Gabriel. Pour ce protreptique, presque, j'ai l'impression que c'était un éloge de la philosophie. Et c'est d'ailleurs assez amusant que la philosophie ait besoin de se, de se faire l'éloge d'elle-même. On trouve pas mal de textes qui font l'éloge de la philosophie. On en a un également chez Merleau-Ponty, si je me souviens bien. Donc c'est voilà, et même on peut penser à Platon qui ne partait pas en guerre contre les sophistes, qu'il faisait d'ailleurs parler dans ses discours, mais tout de même, la philosophie, le philosophe n'est pas le sophiste qui est lui presque l'anti-philosophe par excellence, qui cherche à persuader, à faire usage de ses charmes, mais dont l'objectif n'est pas du tout la recherche de la vérité comme le philosophe. Donc voilà ce qu'est peut-être la philosophie, la recherche de la connaissance. Qu'est-ce que tu en dis, toi, Tibor ? Est-ce qu'on peut parler de la philosophie, d'ailleurs, ou de les philosophies ?
Eh bien, je vais vous le dire. Quand arrêterons-nous de croire à l'unité de la philosophie ? Il semble difficile d'admettre l'existence d'une philosophie unique, tant celle-ci prend des formes si différentes au cours de son histoire, d'une personne à l'autre, d'une pratique philosophique à l'autre, d'un médium à l'autre. Médium pris au sens de ce qui produit une médiation entre émetteur et récepteur. Peut-être qu'il serait mieux de penser en termes de manière de philosopher. Il y aurait ainsi des manières de philosopher plutôt que la philosophie. Je m'explique. Socrate est considéré comme étant un des fondateurs de la philosophie. De ce que l'on sait, il n'a laissé aucun écrit et il s'est même opposé à l'écriture. Selon lui, dans le Phèdre, l'écrit ne rend pas plus savant, il ne permet pas de mieux savoir. Au contraire, l'écriture aurait pour effet de négliger la mémoire. Elle produirait l'oubli de la réalité et de la vérité du contenu du discours originel. Le discours écrit n'est qu'un simulacre d'un discours plus vivant et plus animé. Quel paradoxe que de lire cela dans un texte de Platon, son célèbre disciple. Dans le cas de ce dernier, la manière de philosopher se résume à l'écrit. Socrate et Platon sont au fondement de la philosophie, certes, mais ce sont bien deux façons très différentes de pratiquer celle-ci qui se font face. Donc, dès les débuts de la philosophie que la tradition fait remonter à Socrate et à Platon, on ne peut pas parler d'unité de la philosophie, car il existe une pluralité de manières de pratiquer la philosophie. Voix, écrit, la philosophie peut se pratiquer de bien d'autres manières. Prenons ce que nous vous proposons actuellement. Un format radiophonique de philosophie. Il est clair que notre émission est philosophique en un certain sens. Mais ce sens du terme philosophie est-il le même que celui impliqué par la pratique philosophique de Platon ou de Socrate ? Je pense que non. Notre manière radiophonique de philosopher diffère de celle des anciens. Le médium radiophonique implique sa propre manière de philosopher. Mais la radio, c'est de la voix et de l'écrit, vous allez me rétorquer. Je répondrai que c'est bien plus que cela, c'est aussi des effets sonores, des musiques, des extraits de films, des lectures de textes, des jeux de questions-réponses. C'est un ensemble d'éléments qu'on ne peut pas réduire à la voix, ni réduire à l'écrit, bien que les deux jouent un rôle essentiel dans le processus radiophonique. Au passage, Walter Benjamin, grand philosophe de l'école de Francfort, fut un homme de radio. Je vous invite à aller lire ses écrits radiophoniques.
Eh oui, effectivement. Est-ce que ce que tu as montré, c'est pas que aussi, finalement, à chaque fois qu'on fait de la philosophie d'une manière différente, on modifie, on déplace le sens qu'on donne à la philosophie. Et il y a quelque chose de très intéressant aussi avec la pratique radiophonique, qui est que, bien souvent, on peut se concentrer davantage sur une pensée en acte. Et voilà, à titre personnel, je trouve ça très séduisant comme idée. Est-ce qu'on conclurait pas, les amis, parce que nous, vraiment nous, là, qu'est-ce qu'on cherche en philosophie ? On fait un petit tour de table ? Qui veut commencer ? Gabriel.
En fait, c'est drôle parce que... C'est pas confortable, la philosophie. Je veux dire, si on cherche quelque chose de réconfortant, on fait de la méditation, si on a des angoisses et qu'on veut pas... qu'elle nous parasite, on se tourne vers une religion. C'est pas réconfortant, la philosophie. Parfois c'est exaltant, parfois c'est excitant, parce que c'est nouveau, parce qu'on connaît pas un auteur, parce qu'on n'a jamais pensé à ça, mais au fond c'est jamais vraiment rassurant, parce que ça pose pas de réponse définitive aux problèmes qu'on a. Mais je crois que c'est ça qui m'excite et m'intéresse, c'est que j'aime bien continuer d'avoir ce regard sur les choses qui font que même si je sais que j'arriverai jamais à avoir une image complètement pleine et entière de ce que j'essaye de fixer, au moins je continue d'avoir le regard tourné vers ça et pas de regarder ailleurs en continuant de vivre ma vie. Ce qui n'est pas forcément plus mal, peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est une jolie chose à regarder. Et même si je sais que je la comprendrai jamais, je préfère continuer d'essayer de la comprendre.
Mm-hmm. Donc,
c'est pas clair en plus.
Aller de l'avant.
Et tu vois, moi, c'est marrant parce que j'ai envie de rebondir sur ce que t'as dit. T'as dit que c'était pas rassurant. Et bah pour moi, c'est exactement l'inverse. En fait, j'ai toujours été quelqu'un qui se posait beaucoup de questions. Même quand j'étais petite, surtout quand j'étais petite en fait, quand j'étais enfant, je posais beaucoup de questions à mes parents, mais je pense comme beaucoup d'enfants, je leur demandais « mais alors pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi c'est comme si ?» Vraiment, mais après c'est souvent des questions un petit peu qui sont réellement sans réponse. Et donc les parents, au lieu de vraiment réfléchir à la question, ils préfèrent dire « c'est comme ça, c'est la vie ».
On embrasse les parents de Marianne.
Non mais c'est pas visé envers mes parents, je pense que c'est un truc bien plus général que ça. Mais... En tout cas, moi, c'est ce qu'il répondait. Il me répondait, c'est la vie. Et c'était quelque chose de très frustrant pour moi parce que j'avais l'impression que je me posais trop de questions. Et je me disais, mais du coup, j'aurais jamais de réponse. Et c'était très, très frustrant. Et au final, la philosophie, ça m'a permis de me rendre compte que c'était normal de se poser des questions, que c'était légitime et même que ça avait un intérêt parce que ça permet de comprendre plein de choses vis-à-vis de... par rapport à soi. On va revenir aux philosophies de vie. Puis par rapport aux autres, par rapport au monde qui nous entoure. Et du coup, ça permet aussi d'être une sorte d'émerveillement continuel vis-à-vis du monde qui nous entoure. Un peu comme, justement, comme à revenir aussi, ça permet de revenir un peu à cette condition enfantine dans laquelle on était à l'origine. Cet enfant qui s'émerveille devant tout et qui se demande absolument pourquoi le papillon vole, pourquoi les roses sont rouges. C'est... Et du coup, j'ai ce sentiment-là que la philosophie me permet de canaliser un peu mes pensées et donc de me poser peut-être aussi les bonnes questions et de mieux reformuler ces interrogations. Et donc, dans un sens, c'est rassurant. Et c'est rassurant parce que voilà, ça légitime peut-être aussi ma manière de penser.
Ça légitime aussi le droit de se poser des questions.
Exactement.
Et toi, Tibor ?
Moi, je ne recherche rien de particulier. Mais ce que j'aime bien dans la philosophie, c'est... qu'elle pousse à adopter, selon moi, une certaine posture de questionnement continu, comme cela a été dit, et qui peut être insatisfaisante, mais moi, que je trouve plutôt satisfaisante. Et voilà. Je suis bref, mais c'est ce à quoi je pense.
Mais c'est génial, la concision aussi. C'est nécessaire, surtout en philosophie.
C'est vrai, en philo des sciences notamment.
Ouais, le philosophe, c'est au choix soit l'enfant, la figure enfantine qui pose des questions, ou alors celui qui fait des discours longs et plombants.
Il y en a qui ont du mal à être.
Je ne vise personne.
Ah, merci. Je comprends bien.
Non, et puis moi, pour répondre à cette question. Je dois dire que j'ai été assez séduite par l'idée de thérapie que j'ai découverte cette année avec l'étude des recherches philosophiques de Wittgenstein. En fait, je dois dire que moi, je dirais que comme Gabriel, ça ne me rassure pas forcément. Mais disons que... Que l'exercice ne me rassure pas, mais ce que j'ai trouvé, en tout cas en philosophie, c'est la possibilité de mettre des mots, des concepts, sur des choses qui m'inquiétaient beaucoup, qui m'angoissaient, et de mettre fin à des silences. Bien souvent, j'étais entourée de silences, de non-dits. Et au lieu de les prendre pour acquis, au lieu de ne pas les questionner, de me dire que c'est normal, ce silence est normal, je me suis questionnée sur ce silence. Je me suis dit, est-ce que ce silence ne me dit pas quelque chose ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller creuser ? Et justement, et cette envie de sortir du silence, de mettre de la vie là-dedans, de mettre des mots, des concepts pour sortir de ce silence inquiétant, de ce silence de de mort, un peu, hein, de ce silence qui cache des choses voilà, qu'on refoule, parfois parce qu'on veut protéger les autres de ce qui potentiellement pourrait être en moi, des émotions dont j'ai peur de l'effet qu'elles pourraient avoir sur vous. Et donc, du coup, je vais rien dire. Et moi, au fond, dans la philosophie, je me suis dit, oh, mais Aristote dit cette chose qui est incroyable, il met le mot sur telle émotion ou telle idée que moi j'ai eue, et de le voir sublimé, décrit avec tellement de profondeur, d'acuité, de précision, de détermination, ça c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir, vraiment. Et je crois que c'est ça que je recherche pour un titre personnel, philosophie.
Puis il y a ce truc avec la thérapie aussi, encore une fois, c'est la légitimisation du fait de se poser des questions. Mais c'est aussi justement le fait d'accepter que, ben justement, il y aura toujours des silences et il y aura toujours des questions à creuser plus profondément et il y aura toujours des ruptures. C'est la dimension véritablement thérapeutique de la philosophie, c'est accepter qu'il y a des silences et donc explorer ces silences pour en découvrir d'autres et, mmh. et rebondir toujours là-dessus, en fait. Et ouais. C'est génial.
Ouais.
C'est surtout quand on est curieux.
Curieux et émerveillé. Et...
ouais, exactement. Finalement, on se rejoint. Nothing remains except the bloody yellow ashes all over the bloody place. Except the bloody yellow ashes all over the bloody place. Something's done wrong. Someone dropped the bomb. The neutron star just fell and changed the face of Mother Earth into a bloody hell. Dried up all the seas and blew up Jean Gladel. Green grass can't grow.
Qu'est-ce qui est proprement philosophique ? C'est la question avec laquelle on a ouvert cette émission et avec laquelle on voudrait refermer. Et à cette question, ben, désolé de vous décevoir, mais nous autres, dans l'héritage de Socrate, on sait qu'on ne sait rien. Alors, c'est très difficile pour nous de nous prononcer définitivement, parce que aussi se prononcer définitivement, ça veut dire aussi poser un point final. Et il n'y a rien de pire que de ne pas...
De plus anti-philosophique
que de ne pas rester avec la force questionnante de la philosophie, de continuer à poser des questions, etc. Alors, bah, comme un pied de nez à Platon, qui disait que les philosophes étaient des rois philosophes, qui avaient l'idée du bien et qui avaient la réponse à tout, eh bien, en pied de nez à Platon, nous allons laisser la parole aux gens et à leurs réponses que nous avons récoltées, toujours au Jardin Luxembourg à Paris.
When I think about philosophy, it's like, I don't know, thinking about stuff of the world, so why things are going on or how we can handle them. So, yeah, it's a little difficult, it's a very difficult topic.
Je pense d'abord à l'étymologie du mot, l'amour de la sagesse. Voilà, donc quelque chose qui est à la fois très abstrait et en même temps très passionnel, paradoxalement.
Ways of studying thinking and systems of thinking. I think what we need is in this day and age is more kind of moral philosophy and people to behave in moral and good ways.
I think, like, it's a way that we can, as like spiritual creatures, to evolve, and also to understand, to connect better with each other and understand better each other too, and yeah, okay. To grow.
I think it's nice to think about ideas and concepts that every man in this earth has to deal with.
Bon, eh ben écoutez, je suis vraiment très très excitée en tout cas à l'idée de commencer cette philosophie à la radio avec vous tous, Gabriel, Tibor, Marianne autour de cette table. Alors ce que nous vous proposerons ici, bah, ce serait un format très libre où la dynamique de l'émission sera celle de la philosophie, celle de la force questionnante, de cette dynamique d'aller de l'avant, pour mettre à l'épreuve certains de nos concepts. Et probablement qu'on aimerait commencer à s'intéresser au concept d'accident. C'est pas sûr, on se réserve le droit de changer ou pas. En tout cas, on va faire ce qu'on préfère, disserter. En espérant ne jamais vous perdre, non de vue, mais d'oreille, vous autres auditeurs et auditrices. Invisible, mais bien réel, corporel, mais non moins spirituel. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment philosophique avec nous. Si vous voulez faire des retours ou participer au jeu de Tibor, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante opium.radiopium@gmail.com. C'est notre première émission, alors on sera ravis d'avoir vos retours. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, @opium-philosophie. Et nos émissions seront disponibles à l'écoute sur toutes les bonnes plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Et on remercie Radio Campus Paris pour la production et la diffusion sur les ondes, le 93.9 FM. Restez connectés.